Chiana a Montigelu, da Renu a Bigornu, RCFM cu noi si deve. France Bleu RCFM. France Bleu.
Yeah.
Help.
Help.
Avant tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top.
Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCFM et dans Toc Toc. Nous parlons théâtre ce soir avec une toute nouvelle création. Noël Cazal est avec nous, il est en train de toucher son micro, c'est pour ça que vous entendez des bruits étranges, c'est lui. Il est le metteur en scène d'Oedipe Roy, Bastia, la peur n'est pas une vision du monde, d'après Oedipe Roy de Sophocle. C'est une production du Théâtre du Commun et nous découvrirons cette création les 15 et 16 novembre au Centre Culturel L'Albor. Bonsoir Noël.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
Cela fait longtemps que vous travaillez sur ce projet. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que vous avez mis en place des ateliers dans différents quartiers, avec des acteurs non professionnels. Comment a germé l'idée de cette Oedipe Roy ?
Alors, il y a une vingtaine d'années, ça a germé. Quand j'ai rencontré pour la première fois Villette, que j'écoutais depuis leur début, ouais. Et à la fin des années 90, je les ai rencontrés dans le cadre d'un projet qui était Médé de Sénèque, mis en scène par Jean-Yves Lasnec. J'avais travaillé avec eux pendant une semaine, et puis depuis une vingtaine d'années, chaque fois que je pensais à Oedipe Roy, je pensais que le jour où je le montrais, je le montrais avec des comédiens, évidemment, et puis avec Villette. Et puis j'y pense depuis une vingtaine d'années, chaque fois qu'il me semble qu'on traverse des situations politique, sociale, tendue, avec des angoisses et des peurs qui se diffusent et qui augmentent dans notre société, que ce soit en Corse ou en
Occident. Que Sophocle est extrêmement moderne.
Voilà. Je pense à Oedipe Roy, puisque la pièce raconte une population, la population de Thèbes, qui est en proie à de grandes peurs, parce que la ville de Thèbes est au bord du chaos, en raison d'une épidémie de peste qui ravage complètement la ville, et la population de Thèbes demande à son chef d'État, puisqu'il s'agissait à l'époque de cité-État, Oedipe, de trouver une solution à la situation, à la crise politique majeure, et à la catastrophe qui est en cours dans cette ville qui est au bord du chaos.
Alors, raconter comme ça, c'est hyper simple. Mais ça, c'est la grande histoire. Sauf qu'à l'intérieur de cette histoire, nombreux sont les personnages et les quiproquos, les non-dits et le fameux complexe d'Oedipe.
Oui.
Parce que les oracles disent qu'il est patricide, mais lui dit « je tuerai jamais mon père ». Enfin, il n'y a pas de raison, les oracles se trompent. Et la ville est à feu et à sang, et ça continue de sombrer, et lui n'y croit pas. Et puis, il va faire des recherches. Et son épouse, puisqu'il sera donc chef d'État auprès de son épouse, elle ne veut pas trop qu'il enquête. Et pour cause.
Alors, il y a l'histoire d'Oedipe, mais en fait, qui est assez simple aussi.
Moi, je la trouve hyper compliquée. Hein.
Alors, l'histoire de...
Je l'ai raconté à Marc-André Castellani, qui n'a rien compris, je pense.
Alors...
Bonsoir, Marc-André.
Bonsoir. Non,
depuis, vous êtes mieux renseigné.
Bonsoir à tous.
Oedipe est un enfant qui naît à Thèbes, et on a prédit à son père que s'il avait un fils, ce fils l'assassinerait et épouserait sa mère.
Donc il faut le tuer.
Dès que l'enfant naît, donc son père demande à un serviteur du palais de prendre ce bébé et d'aller l'abandonner dans la montagne pour qu'il disparaisse. C'est un berger, le monte dans la montagne, et au lieu de l'abandonner pour qu'il soit dévoré par les bêtes sauvages, par pitié, rencontre un autre berger qui est d'un état voisin de Corinthe, et il lui remet ce bébé. Donc ce bébé grandit à Corinthe, et dans le palais royal de Corinthe, où là règne un roi et une reine qui n'avait pas d'enfant, donc il se retrouve avec ce fils adoptif, ils en sont évidemment très heureux, et Oedipe donc grandit à Corinthe, sans savoir l'origine de son histoire. Et puis un jour, à ce Oedipe qui a grandi à Corinthe, quand il est jeune homme, on lui dit lors d'un repas un soir qu'il n'est pas le fils naturel de son père et de sa mère. Alors à partir de là, il va se mettre à enquêter de son côté et il va partir à la recherche on lui dit qu'il n'est pas le fils naturel de son père et de sa mère, du roi de Corinthe, et un oracle, c'est-à-dire un représentant des dieux sur terre lui dit, et un jour tu tueras ton père et tu assassineras ta mère, le même oracle qui avait été fait à son père naturel. Bon, alors évidemment, horrifié, il fuit Corinthe pour pas rester près de ses parents. Il dit, je reste près de mes parents, je suis dangereux pour mes parents.
Il fuit Corinthe et,
et en fuyant Corinthe, sur la route, il rencontre par hasard, donc 20 ans plus tard, il rencontre un convoi royal où, dans lequel se trouve son père naturel, son père biologique, voilà. Et une dispute s'ensuit sur la route pour des histoires des histoires assez bénies au départ. Et dans cette dispute, il tue les quatre gardes de son père et il assassine également, sans savoir évidemment que c'est son père, et il assassine également le roi.
Voilà. Et son père n'est autre que le roi Laios.
Voilà. C'était Laios. Ouais. Donc il, sans le savoir, il vient assassiner son père biologique. Suite à ça, il fuit vers Thèbes parce qu'il veut aller le plus loin possible de Corinthe. Il pense que lui, sa malédiction va se réaliser.
Il raconte vachement.
Il arrive à Thèbes et Thèbes vit déjà à cette époque-là sous l'emprise du sphinx, qu'on appelle la sphinge, qui dévore tous les étrangers et tous les jeunes gens qui n'arrivent pas à résoudre l'énigme qu'elle pose à tous les étrangers.
Le fameux énigme
du sphinx, voilà. Œdipe, lui, résout l'énigme et à partir de là, on le met sur le trône de Thèbes, il devient roi de Thèbes, il épouse la veuve qui est en fait sa mère biologique.
Voilà. La veuve de Laios.
Il lui fait quatre enfants, Antigone,
Ismène,
Polynice et Théocle. Et au bout de 15 ans de règne...
C'est Jocaste.
Jocaste, c'est donc sa mère et son épouse.
On est en train de répondre au quiz que va nous faire tout à l'heure Michel-André-Anne.
Et au bout de 15 ans de règne, se déclenche cette peste, c'est là que la pièce commence, la peste se déclenche et sa population lui demande de trouver une solution. La solution, on lui rapporte tout de suite, dès le début de la pièce, on lui rapporte que un oracle a dit, voilà, le roi Laios a été tué il y a une quinzaine d'années, si vous voulez que la ville de Thèbes si vous voulez que cette catastrophe prenne fin, il faut trouver les responsables du meurtre, les punir, les bannir ou les mettre à mort. Il va mener une enquête et à l'issue de cette enquête, il va découvrir qu'il est, lui, le meurtrier de son père et l'époux de sa mère à qui il a fait quatre enfants.
Enfin, le gars, il comprend pas que Laios est son père alors que Thèbes sombre depuis 15 ans, depuis que Laios est mort. Et il fait pas le rapprochement.
Non, il fait pas le rapprochement.
Il a mis 15 ans.
Il a mis 15 ans pour faire le rapprochement.
Non, au début, ça va.
Jocaste, il la trouve pas un peu âgée pour être sa femme?
Alors, Jocaste...
Elle est très jeune, peut-être.
Non. Je ne sais pas si on prend par exemple le Pasolini,
le film
de Pasolini, bon, Francocchi, quand il joue le rôle, il a une quarantaine d'années, Silvana Mangano, à peu près le même âge que lui.
Et ça fonctionne très bien.
Pasolini, qui est très malin, a beaucoup maquillé Silvana Mangano, de sorte que les rides ou les traits du visage sont moins visibles. Elle a une sorte de maquillage très blanc, avec un regard toujours un peu halluciné.
Ça a été une source d'inspiration
Pas vraiment, parce que c'est tellement puissant sur le plan visuel, dramatique.
Il valait mieux s'en écarter.
Par exemple, l'acteur qui joue Oedipe, Yann Boudot, il m'a dit je veux pas voir le film de Pasolini. C'est d'une telle puissance, c'est magnifique, mais c'est d'une telle puissance, d'une telle richesse que il vaut mieux faire attention. Je l'ai revisionné il y a un an, mais depuis je ne l'ai pas regardé.
Noël Casal, et vous nous présenterez donc Oedipe Roi. Bastia, la peur n'est pas une vision du monde, tout simplement pourquoi? Parce que vous resituez cette pièce de Sophocle dans notre actualité, et puis vous l'ancrez sur notre île, ici en Corse, pour que ça résonne. Vous avez choisi de travailler avec Avilette, vous nous avez expliqué pourquoi. On va donc écouter Avilette avec Soumille, parce qu'il vous semble que ce titre-là est un titre qui peut correspondre à ce travail que vous avez effectué.
Alors, ce qui est raconté dans Soumille, on dirait que c'est écrit pour Thèbes. Hein, parce que les paroles de Soumille, c'est « raconte une ville qui est en proie à de grands désespoirs, à de grandes catastrophes. Les morts jonchent les rues. » Donc ça fait vraiment penser, quand on écoute le texte, ça fait vraiment penser à Oedipe. Après, pendant des mois et des mois, justement, quand je travaillais avec des habitants de Bastia pendant tout l'hiver dernier, je pensais souvent que Jean-Claude Aquavive allait créer des chants un peu de cet ordre-là, de cette nature-là, de ce
registre-là.
Et en fait, pas du tout. Quand on a fait les premières séances d'écoute en juillet dernier, alors c'est pas du tout dans ce registre-là, on n'est pas du tout dans le registre la main, où ils ont composé cinq chants. Le cinquième, après la mutilation d'Oedipe, puisqu'quand il découvre la vérité, il se crève les yeux. Après la mutilation d'Oedipe, là, ils ont créé un chant plus proche du lamento. Mais les quatre chants précédents, on n'est pas du tout dans ce registre-là, donc je pourrais peut-être en parler après Soumille, mais on n'est pas dans le registre de Soumille, non.
On est dans un registre plus proche, m'avez-vous dit, de Danse Mémoire Danse.
Oui, on est dans un registre.
Qui est une autre création d'Avilette.
Oui, voilà, qui est le dernier album d'Avilette avec Paolo Fraisse, et Daniel Di Bonaventura.
Très jazzy.
On n'est pas dans le lamento, on n'est pas dans le traditionnel, on n'est pas dans la tradition qu'on connaît, lamento, giro. Non, on est dans quelque chose de beaucoup plus. Il me vient à l'esprit ce mot un peu bateau, un peu passe-partout, baroque. C'est très, très, très sophistiqué. Les voix, le travail des six voix, mais ça se croit, ça se recroît, ça se déploie, ça se. On n'est pas du tout dans des voix basses. Et
c'est là qu'on balance un truc encore plus bateau. Ils sont trop forts. On écoute.
C'est très beau.
Una fame di morte e soffati di mare amaro i visi sotto un sole
avec Avilette. On vous le rappelle, Avilette a donc participe au projet de Deep Roy, Bastia, la peur n'est pas une vision du monde, de Noël Casal, et avec le Théâtre du Commun, puisqu'ils ont écrit une partition spécialement pour cette création. Et vous vouliez dire que le travail qui a été effectué vous a beaucoup surpris, le travail d'Avilette. Vous ne nous attendiez pas du tout à cela, et vous avez été surpris et agréablement surpris.
Oui, agréablement surpris, oui. C'est toujours très beau, Avilette. Mais là, quand je les écoutais, dès la première séance d'écoute au mois de juillet...
Il n'y aura pas d'instrument de musique, uniquement
non,
les voix.
Non, du chant, que des voix. Je me suis dit... on est en crise, on vit dans une société en crise, hein, que ce soit en Corse, en France, en Europe. Bon, les sociétés occidentales, on traverse une crise en ce moment, des crises successives. Et pas mal de menaces pèsent sur nos sociétés. Et quand je les écoutais, je les regardais travailler, je les écoutais, et je me disais, les écouter, c'est... Qui nous offre ça, c'est nous offrir des moments, c'est la beauté du monde, quoi. Ce sont des moments de paix et de beauté. Quand on écoute des chants pareils, voilà, ça m'a fait penser à ça.
Et est-ce que vous vous êtes dit, du coup, il va falloir que mon Oedipe soit à la hauteur de ce que je viens d'entendre? Ça vous a rassuré d'une part, mais ça vous a mis peut-être.
Alors, c'est pas une question d'être à la hauteur, mais c'est plutôt c'est quel travail théâtral il faut. C'est le pendant des mois quand je travaillais avec plusieurs habitants de Bastia, je pensais à un certain statut, une certaine place d'Oedipe, d'Avidette dans le projet, je veux dire de place sur le plan dramatique. Je pensais qu'il serait plus à l'unisson avec les habitants. Les habitants parlent souvent à voix basse, lentement, se parlent, s'écoutent. Et je pensais qu'il serait dans ce registre-là. Mais quand ils se mettent à chanter, ça part. Oui. Voilà, c'est bon. Et alors, ça m'a rappelé une anecdote.
Bien sûr.
Que je vais raconter. J'ai vu il y a longtemps, il y a plusieurs années, j'ai vu un documentaire sur la dernière soirée de paix à Bagdad en 2003, juste avant le déclenchement des bombardements sur Bagdad. Et dans ce documentaire, on voyait des habitants de Bagdad se réunir entre eux dans des cours d'immeubles, dans des appartements, dans des maisons, pour passer les dernières heures avant les bombardements ensemble. Et si Saddam Hussein, je crois, ne se rendait pas avant 2h du matin, les bombardements démarraient à 3h du matin. Et parmi tous ces gens qui se rassemblaient, il y en avait pas mal qui avaient invité chez eux ou dans des cours d'immeubles, ils avaient invité des poètes, des chanteurs, des musiciens, pour passer la dernière soirée ensemble. Et ils passaient donc cette dernière soirée, et ces chanteurs et ces musiciens jouaient de la très très belle musique orientale, de la très belle musique occidentale. Ils jouaient du Mozart, du Bach. Et les gens écoutaient, ils attendaient 11h, minuit, etc., en attendant de savoir si ça allait se déclencher ou pas. Et comme à 1h du matin, eh bien personne, Saddam Hussein ne s'était toujours pas rendu, ces gens se rendaient aux abris, et puis ça bombardait. Et c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire, en quelques heures, on pouvait. Ces gens étaient à la fois. Ils étaient contemporains de ce que l'humain peut créer de plus beau, Mozart, Bach, la grande musique orientale. Et une heure plus tard, c'est ce que l'humain peut créer de pire, les bombardements, le meurtre et la guerre. Et dans une ville, déjà on proie au chaos. Dans un pays, déjà, on proie au chaos. Ils s'offraient, ces gens-là, un dernier moment de paix et de beauté avant le pire.
Et de poésie.
Et de poésie.
Pourquoi avoir voulu travailler dans les quartiers de Bastia avec des gens de la ville, pas forcément comédiens?
Alors, je n'ai pas travaillé dans tous les quartiers de Bastia. En revanche, on a travaillé toujours à l'Albourg pendant sept, huit mois. Et en revanche, les gens qui sont venus dans l'atelier
étaient issus de différents quartiers.
Voilà, une trentaine d'habitants de Bastia venus de différents quartiers. Et puis, il y en a une bonne partie qui sont encore d'ailleurs dans l'équipe de création, qui ont suivi jusqu'au bout. Alors, parce que je voulais contextualiser le projet à Bastia, je crois, pour essayer de comprendre comment on vit à Bastia aujourd'hui. Voilà, comment on vit à Bastia aujourd'hui. Il me semble que l'état de la société bastiaise et corse, en général, j'élargis à la Corse, il me semble que l'état dans le social, politique, dans lequel on est aujourd'hui, culturel aussi, prend ses sources à la fin des années 70, avec les débuts du nationalisme, et que ces 40 dernières années ont contribué à former l'état dans lequel on est aujourd'hui. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas la question. Enfin, on est dans un état, plus ou moins préoccupant. Et encore une fois, en essayant de questionner l'état d'une société précise, d'un territoire précis, je me rends compte, par exemple, qu'il y a, on, ça peut faire écho à des situations analogues ailleurs dans le monde. C'est quand même le but du jeu.
Mais est-ce que ça vous a interrogé à titre personnel, vous qui êtes Bastiais, qui adorez cette ville et qui l'a quittée pendant longtemps, et vous l'avez retrouvée depuis peu, est-ce que c'était également une interrogation personnelle?
Que la situation de Thèbes, la situation catastrophique de Thèbes, que la cause de la situation catastrophique de Thèbes remonte à des questions de crime et de criminalité, rester impuni, pas jugé, etc., etc., ça peut pas ne pas faire écho aux 40 dernières années. Je crois que la question du meurtre en Corse depuis 40 ans, elle est omniprésente. Bon, c'est régulièrement, ça ressort. Il y a des rapports de préfets au 19e siècle qui témoignent de c'est terrifiant. J'en ai lu un récemment. Le préfet Tuillier, en 1848, il dit, mais depuis 4 ans, on a assassiné 830 personnes en Corse. Bon, là, depuis 40 ans, la question de la criminalité, la question du meurtre, la question des voyous, la question du mélange des genres entre les luttes politiques, les voyous, des implications d'hommes politiques eux-mêmes, etc., etc., a créé une situation souvent explosive. Bon, aujourd'hui, un petit peu apaisé, mais néanmoins, il y a partout des métastases dans la société. Bon, on parlait de Jean-Claude tout à l'heure qui a intégré le collectif anti-mafia. Bon, il y a des métastases partout dans la société. Voilà, donc
par ce biais-là, ce que vous venez d'exposer, que ça touche à votre intime, ou est-ce que, à la manière de l'Œdipe roi de Pasolini, qui, on le sait, était autobiographique, il y a des choses plus personnelles de vous dans cet Œdipe roi?
Plus personnel de moi que moi.
De votre...
Parce que
de votre histoire.
Dans mon histoire personnelle, j'ai été touché de près par la violence, de très très près par la violence, pour certains de mes proches, pour moi-même, oui.
Alors nous allons
par la violence criminelle et politique.
Après avoir parlé de la violence criminelle et politique, faire appel à Michael Andréani. C'est le docteur de cette émission.
Ah bon?
Bonsoir Michael.
Je n'ai pas encore prêté serment.
Vous avez préparé un quiz qui est censé nous interroger sur notre savoir.
Plus ou moins.
Et puis nous divertir. Sauf que, comme nous avons raconté toute l'histoire de Diderot, de Sophocle, en préambule dans cette émission...
Il y a
des questions qui sont flinguées. Ça vous va bien, on parlait de violence.
Je peux les reposer, ou alors on fait carrément l'impasse dessus.
Eh bien non, vous les reposez. À ce moment-là, il ne répond pas, Noël Casal, et on va voir si Marc-Andrea Castellani, qui était avec nous, peut répondre, et si Christophe Laurent, qui vient d'arriver et qui nous fera une chronique littéraire un peu plus tard, peut répondre. Bonsoir Christophe Laurent.
Bonsoir Marie.
Ne soyez pas timide et n'ayez pas peur de ne pas répondre. C'est parti, mon cher Michael.
Bon alors, lorsqu'Édipe vit le jour, ses parents l'abandonnèrent. Pourquoi?
Ne répondez pas tout de suite, hein. Vous le savez, vous l'avez dit.
Pour éviter un patricide.
Et bien c'est un bon point, il a bien écouté.
Oui, puisqu'un oracle leur a appris donc que l'enfant tuerait son père.
Quant à Christophe Laurent, il dormait. Hein.
Pour éviter de se faire buter.
J'ai oublié de préciser dans la consigne, entre guillemets, qu'une question sur deux était sur le mythe en lui-même ou bien sur le film de Pasolini.
Donc
la question numéro 2 sera sur le film. Là aussi, on l'a évoqué, mais je la repose. Qui sont les deux personnages principaux dans le film Œdipe roi de Piero Paolo Pasolini?
Ça aussi, je l'ai dit. Hein.
Ouais.
Si vous m'avez écouté.
Alors c'est un test de mémoire. Non, mais les acteurs. Qui sont les acteurs?
Sylvana Mangano.
Christophe Laurent, bien. Et
j'ai oublié.
Franco Citti.
Je l'ai dit.
Enfin, c'est pas mal quand même, c'est pas mal.
Sylvana Mangano.
C'est bien.
Voilà. Devenu un jeune homme Œdipe, s'en va consulter l'oracle de Delphes qui lui a appris la vérité sur ses origines. Qui était cet oracle?
Vous l'avez pas dit ça?
Non, je ne l'ai pas dit, ça.
Ah non, vous le savez?
Vous voulez le nom de l'oracle?
Oui.
Alors, allez-y.
C'est posé aussi à voir. C'est soit Apollon, soit Phoïbos, soit Loxias. Il prend différents noms selon les versions.
Alors, peut-être que j'ai fait de mauvaises recherches. Pour moi, la réponse est Tirésias.
Ah non, ça, c'est pas le...
Ah, j'adore quand il se trompe.
Tirésias, c'est le personnage, c'est un devin
que
Œdipe convoque dès le début de la pièce, la scène 4, c'est la scène avec Tirésias. J'ai cru que vous demandiez Quel était l'oracle de quel dieu était l'oracle que Oedipe avait consulté quand il était encore à Corinthe? J'avais pas compris la question. En revanche, quand il est à Thèbes, oui, quand il commence son enquête,
oui, devenu
on
jeune
lui dit,
homme,
bah, il y a un devin qui sait plein de choses, peut-être qu'il pourra te renseigner, et il fait venir Tirésias. Oui,
oui, une fois jeune homme, hein, je l'ai bien précisé, oui.
Donc vous ne vous êtes pas trompé en réalité, mon petit Michael.
Genre, comme je suis content le vendredi, oh là là.
Si je voyais un coup près dans l'altar,
si vous ramène. Et qui prêtait devant ta voix,
en couesse, mais bon.
On revient au film de Pasolini. À quelle époque se déroulent les premières scènes du film?
Ah!
Bon, mais il doit le savoir, bien sûr, Noël.
Dans les années 30, à l'époque de la montée du fascisme,
au 20e siècle, effectivement, les premières scènes montrent le bonheur d'un nouveau-né jouant avec sa mère, donc au début de ce siècle-là, puis l'irruption du père jaloux en uniforme militaire, figure austère et symboliquement violente.
Pasolini disait l'officier est mon père et je suis le bébé.
Tout à fait.
Mais il l'a revu il y a un an. Nous, on l'a vu il y a 15 ans, alors c'est sûr.
Si c'est pas
ça,
plus.
Ça ne compte pas si c'est pas plus. Moi, j'étais en fac, donc oui, il y a plus que 15 ans.
Alors,
merci, Michael, pour ce petit rappel.
Il va falloir faire une phrase un peu plus longue pour cette réponse. Alors, citer l'énigme du Sphinx, cette énigme qui, selon la mythologie grecque, fut soumise par celui-ci, donc par le Sphinx, à Oedipe. Cette devinette, cette énigme.
Quel animal marche à quatre pattes non, et ensuite à deux, et puis encore, et puis à trois.
Ouais, c'est presque ça.
Non, okay. C'est ça, arrêtez, c'est ça. Allez, on d'accord.
Oui, non, je joue sur les mots, c'est
le matin, deux à midi et trois le soir.
Voilà, oui, quel être pourvu d'une seule voix. D'abord quatre jambes le matin, puis deux jambes le midi et trois jambes le soir, effectivement.
C'est pas le père Fouras qui a créé cette énigme. Mais quel idiote.
Voilà, la réponse correcte du héros étant l'homme, lequel l'enfant marche effectivement, comme le disait Marconi, à quatre pattes, adulte se tient debout et âgé s'appuie sur un bâton ou une canne, tout simplement. Alors, ensuite, toujours sur le film, on y revient.
Ça ne vous dit pas qui c'est, cet animal. Bon, non.
Pour l'instant,
l'homme,
je ne compte pas.
Dit, c'est l'homme.
Ah, c'est l'homme. La réponse, c'est l'homme.
Pour ascolter Amitato, hein. Bon. Quel choix cinématographique Pasolini fait-il pour montrer que Deep n'échappe jamais à sa destinée? Il y a deux choix.
Christophe Laurent est sur Wikipédia, je le dis haut et fort.
Non, pas du tout.
Allez-y, reprenez.
Cheaters. Il y a deux choix cinématographiques purement mis en exergue par Pasolini. Est-ce que vous savez lesquels? Pour montrer que Deep n'échappe jamais à sa destinée.
Et c'est quoi le choix?
Alors, il intègre dans l'habillage même, dans les scènes, dans ce qui peut être mis en avant visuellement et même d'un point de vue sonore.
Ne vous laissez pas avoir, Michael. Hein ouais. N'en dites pas trop.
Je sais pas, je comprends pas bien. Je comprends bien la nature de la question.
C'est facile ça de dire je ne comprends pas la nature de la question. Bien sûr, Monsieur Casale. Mais oui, tout est possible. Alors essayez de reformuler la question, s'il vous plaît, pour que Noël Casale comprenne.
Alors je vais juste la reposer en détachant bien les mots.
J'ai compris des mots, je les ai compris. C'est le sens de la question.
C'est humiliant.
Les choix de mise en scène.
Oui, mais je comprends. Hein, je sais. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais hiberner tout le week-end. Donc, que fait Pasolini dans son film en termes de réalisation?
Donc, en termes de mise en scène.
Voilà, de mise en scène pour montrer que Deep n'échappe jamais à sa destinée. Je vais vous donner la réponse, ça sera plus simple. Il intègre une flûte stridente.
Ah oui, ça, oui. Il finit à la gare de Bologne, oui.
Et Oedipe se cache toujours les yeux devant un choix de carrefour.
Ah,
et Oedipe se cache toujours les...
Les yeux.
Les yeux. L'autre,
oui.
Ceci, les deux là,
oui.
Devant un choix de carrefour.
Devant
parce qu'en effet, comme le disait...
Voilà, devant, hein.
Oedipe se cache toujours les yeux devant un choix de carrefour. Lorsqu'on doit choisir...
Symbolique.
Puisqu'il a assassiné son père, un carrefour.
Voilà. Oui, voilà. Oui.
Et donc, en effet...
Vous pouvez dire... Tiens, je ne m'en souvenais plus. Vous avez le droit de dire ça, non?
Je n'avais pas remarqué qu'il se cachait toujours les yeux. Enfin, qu'il se...
Ouais, ouais.
Puisqu'il a les yeux crevés, après...
Après, il ne le fait plus.
Ouais. Comme vous le suggérez dans les dernières scènes de Retour au XXe siècle, on voit un aveugle guidé par un jeune garçon qui est Angelo à travers les rues d'une ville moderne.
Ninetto d'Avoli. Qui est joué par Ninetto d'Avoli. Hein.
Et on voit jouer cet homme, donc on le voit jouer de la flûte dans le centre-ville, sur le parvis de la cathédrale.
De Bologne.
Wow. Voilà. Alors la flûte, je savais, et le détournement du regard à chaque choix de carrefour, je ne le savais pas, et je ne sais même pas si je l'avais remarqué à l'époque.
Bon, j'ai encore deux petites questions.
Mais si je vous en prie, allez-y.
Bon, une aussi qui a été flinguée, donc il suffit de faire jouer sa mémoire. Les enfants donc de Jocaste et Oedipe, il y en a eu quatre. Quels sont leurs noms?
Ah bon, il l'a dit ?
Je l'ai dit un peu vite.
C'est ouais. vrai ?
Ouais, oui, oui, oui.
J'ai aucun souvenir.
Ah, je m'en souviens. Deux filles, deux garçons.
Oui.
Riri, Fifi et Loulou. Non. Je n'ai pas du tout retenu.
Quelle référence ?
La fameuse pièce de théâtre.
Antigone. Antigone. La sœur d'Antigone. Ismène, et les deux fils, Polynice et Théocle, qui sont à l'origine de la pièce Antigone, puisque Antigone est condamné à mort pour avoir voulu enterrer son frère, Polynice, qui s'est battu contre la ville de Thèbes. Parce qu'après toute cette histoire-là, se déclenche une guerre à Thèbes entre les deux frères, Polynice et Théocle. Et Théocle se bat du côté de la ville, et Polynice contre la ville. Donc Créon, bien des années plus tard, qui est devenu roi de Thèbes, frère de Jocaste, condamne le frère qui s'est battu contre la ville à pourrir hors des remparts, et Antigone veut l'enterrer. Et là, c'est là que commence la pièce Antigone.
D'accord.
Famille maudite.
Autre question ?
Il en reste une sur le film. Quel rôle joue Pier Paolo Pasolini, qui était donc également le réalisateur et le scénariste ? Il joue un rôle dans ce film, lequel ?
Le coryphée, non ?
Celui du grand prêtre, oui.
Du grand prêtre, celui qui prend la parole,
Oui, c'est bien.
Qui se détache du cœur pour parler.
Bon, c'est un quasi sans faute pour Noël, à part l'histoire du Carrefour.
Quelle surprise.
Marc-André Castellane et Christophe Laurent ont été pas mal du tour.
J'ai une réponse.
Voilà, surtout Marc-André Castellane et Christophe Laurent ont beaucoup fait « mais oui !» Et puis pas de réponse. En tout cas, merci beaucoup, Michael, puisque cela affine notre compréhension de la pièce.
Je vais sûrement devoir aller chez l'orthophoniste, par contre.
Non, non.
Petit problème d'élocution.
Mais pas du tout, arrêtez. Mais ne vous flagellez pas, c'est pas nécessaire. Mais c'est pas mal ça de faire des émissions de radio pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent bien la pièce avant de faire.
Oui, j'espère qu'on la suivre.
Avant de venir la voir, ce sera donc les 15 et 16 novembre au Centre culturel de l'Albor. Oedipe Roy, Bastien Lapeur n'est pas une vision du monde. Dans le rôle d'Oedipe, vous l'avez dit.
C'est un acteur qui s'appelle Yann Boudot.
Qui était acteur déjà ou...
Oui, acteur, oui. Yann est un des plus grands acteurs de théâtre en France actuellement, enfin depuis quelques années déjà.
C'est pour ça que je ne le connais pas.
Ouais. Et Yann, cet hiver, en travaillant donc, avec de nombreux habitants de Bastia, à un moment, je me suis rendu compte, et ça sautait aux yeux de tout le monde, pas qu'à moi, qu'il fallait que Oedipe, comme dans la pièce de Sophocle, bon, on n'a pas fait une grande découverte, Sophocle propose que ce roi de Thèbes soit d'origine étrangère, aux yeux de la population de Thèbes. Parce que biologiquement, il est de Thèbes, mais pour la population de Thèbes, c'est un étranger.
Bien sûr.
Il venait de Corinthe,
puisqu'il n'a pas grandi à
Thèbes. Il a pris le trône, voilà. Et donc, on s'est rendu compte que, eh bien, cette proposition poétique de Sophocle s'impose dans le travail. Et j'avais beau regarder, il y avait des personnes dans le groupe de Jean de Bastia.
Ah oui, c'était pas mal en termes d'accent et de façon de poser la voix.
Je me suis dit, il faut que Oedipe soit aussi... Parce qu'au bout d'un moment, au bout de 3-4 mois d'atelier, ce groupe d'habitants de Bastia, qui comprend des amateurs et des professionnels, malgré tout, était hyper soudé. Hyper soudé. Et la personne qui, même d'Oedipe, fait problème. Et plus la pièce avance... Plus on sent qu'il y a une incompréhension, un fossé grandissant entre la population et lui, du fait même de son statut d'étranger.
Mais vous n'aviez pas peur du côté Pinsoud et Loco ?
Non. Yann est venu. On a fait des essais. Donc j'ai appelé Yann. Il a été d'accord pour venir faire 3 jours d'essai. On a fait 3 journées d'essai.
Parce que c'est peut-être ce qu'on va percevoir.
Ouais, au mois d'avril. J'espère qu'on va percevoir qu'il est étranger. J'espère. Sinon, j'ai tout raté. Si on se dit, oh, c'est un
d'accord,
bastille,
c'est un raté. Choix.
Ah, oui, c'est un choix.
Un choix délibéré.
Oui.
Jocaste
est joué par Sarah Legato, qui est une comédienne bastiaise, qui est là. Sarah Legato, peut-être que vous connaissez ici,
parce que
chez RCFM. Bon. Et Créon est joué par Xavier Tavera, qui est également un comédien professionnel, Xavier Tavera. Et puis ensuite Jacques Philippe. Alors, Jacques Philippe, il a toujours fait pas mal de théâtre, plus ou moins. Il en fait plutôt des choses bien. Ensuite, il y a des amateurs qui ont des rôles importants, comme Pierre Thierry, qui est amateur complètement. James Alliot, qui est donc il y a 6 personnages avec rôle, et dans ces 6 personnages, 6 comédiens avec rôle, il y a 2 parfaits amateurs, Pierre Thierry et James Alliot. Ensuite, il y a un chœur de femmes parlées qui est composé par 10 habitantes de Bastia, qui raconte 2 récits importants. Donc c'est le chœur parlé et le chœur chanté, qui est chanté par Avilette, bien sûr. Donc il y a, je dirais, 3 catégories de gens sur le plateau. Du moins pour la création en Corse et pour les tournées en Corse qui vont jusqu'en octobre 2020. Ensuite, on part en tournée sur le continent. en France et très probablement en Italie. Et là, on tournera avec une équipe réduite. Le cœur des habitants de Bastia, le cœur parlé des habitants de Bastia, ne pourra pas faire cette tournée sur le continent.
Donc vous avez déjà des dates et...
Oui, jusqu'au printemps 2021.
Ah, formidable. Pour Audi Pro, que nous découvrirons les 15 et 16 novembre au Centre culturel L'Albor. Voici la complainte corse de Philippe Léotard avec Avilette. Pourquoi nous avons choisi ce morceau? Parce que vous l'avez beaucoup écouté pendant la préparation de ce travail.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'on avait envie de l'entendre.
Bon.
Et c'est un morceau que j'aime beaucoup.
L'amore in casa me cantava un signor, ma so di già un color di dolo, un signor un po' campà in core a me canto una malacella. In cuore a me speranza un cino più,
speranza.
Addio la mia bella gioventù,
gioventù.
Paese caro, addio a te, addio.
Addio.
In casa me nasci un bel amore.
Dove mi sono nacchita un bel amore. Signor j'en fais, mais je suis déjà couleur de deuil. Et le rossignol ne peut plus vivre. Dans mon cœur chante une chouette. Dans mon cœur il n'y a plus d'espérance. Adieu.
Paese caro, addio a te, addio.
vécu sans clim et sans GPS. Alors, vous devriez survivre à ce petit problème de vue qui baisse. Si vous êtes né avant 1978, venez tester gratuitement votre vue chez Atoll. Atoll, mon opticien. Ce test n'est pas un examen médical.
Bienvenue à bord de la Relaxation Mobilier de France. Votre destination, le confort et la détente. Installez-vous dans votre fauteuil entièrement personnalisable et inclinable à 160 degrés. Vous êtes bien chez Mobilier de France.
Du 10 au 29 octobre, jusqu'à 30% de remise sur les fauteuils et canapés relaxation signalés dans les magasins participants.
Mobilier de France.
Bonjour Pierre Orsini. Vous êtes gérant des magasins Aristil et le créateur du site masalledebain.com. Comment expliquez-vous un tel succès national?
Bonjour. Nos avantages? Une large gamme, du stock, des prix, le sur-mesure dans l'ensemble des familles de la salle de bain et le service de conception 3D gratuit en ligne et en magasin.
Vous êtes le leader du sur-mesure?
Oui. Grâce à nos outils, vous pouvez en quelques clics avoir le prix, le délai et le rendu 3D de votre réalisation. Sur masalledebain.com, le design c'est vous.
Merci. Rendez-vous en ligne ou dans les showrooms Aristil, à Bastia et Ajaccio.
L'artisanat est une voie d'avenir. Vous voulez vous former à l'un de nos 250 métiers, créer votre entreprise, développer votre activité? Les chambres de métiers de l'artisanat présentes dans tous les territoires vous apporteront toujours la bonne réponse. Rendez-vous dans la chambre de métiers de l'artisanat la plus proche de chez vous ou sur artisanat.fr. Les chambres de métiers de l'artisanat, la bonne réponse.
Ta zone à Santa Teresa, ta bolsa à la ta, LTFM, Insam et Simoas.
Noël Casal est notre invité pour parler de Deep Roi. Bastia, la peur n'est pas une vision du monde que nous découvrirons les 15 et 16 novembre au Théâtre de Bastia, d'après Deep Roi de Sophocle. C'est une production du Théâtre du Commun avec des acteurs professionnels et non professionnels. Cela fait un an que vous travaillez sur ce projet et 20 ans que vous y songez depuis que vous avez vu Avilette sur scène dans une mise en scène de Médée, puisque Avilette a écrit une partition spéciale pour votre Œdipe roi que nous découvrirons. Alors on parlait hors antenne de toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer. Enfin, c'est moi qui émettais ces propositions et finalement vous avez l'air de gérer votre barque. Donc nous attendons avec impatience les 15 et 16 novembre pour découvrir ce spectacle. Mon cher Christophe Laurent, vous nous parlez d'un polar ce soir.
Oui, pour changer.
Alors, Craig Johnson, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Il est ici chez Gallmeister avec Dry Bones.
Alors, puisque vous aimez les jeux, on va faire un petit jeu, mais alors super facile. Alors, question, Marie.
Parce que j'aime quand c'est léger ou parce que je suis moi-même légère? J'ai pas compris.
Non, parce que vous êtes une gameuse. Alors, question géographie. Je suis un état des États-Unis, coincé entre le Colorado et le Montana, célèbre pour mon parc national qui fut le premier au monde.
Oui.
Je m'étale sur plus de 251 000 mètres carrés.
Je suis.
Sur le territoire de la France. Ma capitale est Cheyenne.
Mais oui,
mon nom est tiré de l'algonquin.
Alors,
qui signifie grande prairie, c'est
Utah.
Non, perdu.
Dakota.
Non, le Wyoming.
Le Wyoming.
Vous parlez très mal l'algonquin.
On a dit Utah, Dakota.
C'est impardonnable. Donc, le Wyoming, c'est la maison un peu de Craig Johnson, qui est l'un des auteurs de polar préférés du public hexagonal. C'est un des plus gros vendeurs en France pour le pur polar, pour le pur roman noir. Et chose extraordinaire, c'est aussi quelqu'un qui vend énormément aux États-Unis. Il vient de sortir donc en septembre un nouveau roman chez lui. Et figurez-vous que la semaine de la sortie, il s'est classé devant Stephen King en troisième position et derrière Margaret Atwood. Donc c'est un phénomène du
juste
du roman
derrière policier. Margaret Atwood,
oui.
et avant King, c'est hallucinant.
Devant Stephen King, oui, non, je ne vous mens pas, j'ai la capture d'écran si vous voulez ensuite. Donc là, il en est à sa 12e aventure avec son chéri du comté d'Absaroka, comté évidemment fictif. Et donc il s'appelle Walt Logmeyer, c'est un ancien du Vietnam, ça fait toujours bien de mettre des anciens du Vietnam, ça donne un petit peu d'épaisseur tout le temps au personnage.
Voilà.
Donc Dry Bones vient à peine de sortir, je crois qu'il est sorti la semaine dernière. C'est pour dire si l'émission est réactive. J'ai fait mon possible.
Parce qu'une fois, il fait son auto-promotion.
Non, c'est pas ça. Une fois, j'ai parlé des Stray Cats. On m'a dit, oh, qu'est-ce que c'est ce groupe de vieux et tout. Ouais, excusez-moi.
Oui, mais on s'était régalé.
Oui, d'accord. Mais enfin, ouais. je l'avais pris dans les dents.
Bon, vous êtes dans le coup, là.
Dans cette histoire, Walt Longmire va affronter l'étrange mystère de la mort d'un vieil Indien, grand propriétaire terrien. Et sur le terrain de cet Indien, qu'est-ce qu'on a trouvé? Tacadacada. Le fossile d'un T-Rex. Eh oui, parce que il faut savoir que le Wyoming était un endroit de passage des dinosaures à l'époque du Maastrichtien. Vous ne l'ignorez pas, ça?
Oh ben, bien sûr que non, donc je regarde toutes les émissions.
C'est entre le 12e et dernier temps du Crétacé. Grosso modo, c'était entre 68 et 66 millions d'années. Vous le saviez, ça aussi?
Bien sûr.
Voilà. Donc, et bien, en parlant de millions, justement, un paquet d'os comme ça de T-Rex, ça vaut une fortune. Et en l'occurrence, le T-Rex qu'ils viennent de découvrir vaut 8 millions de dollars. Donc, alors, est-ce que le vieil indien est décédé parce que quelqu'un veut hériter des 8 millions qui ont été trouvés sur place? On ne sait pas trop, mais c'est pas si simple. On n'est pas chez Franck Thillier ou Maxime Chatham. Il y a quand même pas mal de petits rebondissements. Donc, Walt Longmire, toujours accompagné de son énorme chien. Vous avez déjà lu du...
Et puis, c'est plus fin. Il ne va pas avec ses gros sabots.
Ah oui, non. C'est quand même assez délicat. C'est pas de la littérature très saignante. Hein, c'est toujours très humain, très... Je n'allais pas dire doux, il y a toujours un contexte social.
Oui, il n'y a pas de chien enragé qui dévore des femmes, non. Comme vous aimez normalement.
Donc là,
la question était, est-ce que j'ai déjà vu Craig Johnson ?
Oui, voilà. Donc là, on retrouve toujours son énorme chien, espèce de bison, à moitié bison, à moitié ours. Il y a aussi son ami chienne, parce qu'il y a tout un background indien. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu Tony Lerman, qui est un auteur aujourd'hui décédé, qui a beaucoup écrit sur les Cheyennes. Donc là aussi, ça se passe avec des Cheyennes. Il y a donc l'ami de Walt Longmire. Il y a aussi son adjointe Vic. Donc il est toujours un petit peu amoureux, mais on ne sait pas si ça va conclure. Et avec toujours une énorme présence de la nature. C'est récurrent chez l'ami Greg Johnson, que ce soit des tempêtes, que ce soit des canicules, que ce soit des pluies. Là, en l'occurrence, c'est des pluies diluviennes. Et il va mener son enquête, je veux dire, assez classique. Hein, c'est qui a buté cet Indien. Évidemment, lui, là, il a un fond très protecteur vis-à-vis des derniers Amérindiens, parce qu'il est au courant de tout ce qui s'est passé. Il se dit, bon, maintenant, si on commence à tirer sur les Indiens pour des lézards morts, où va le monde. Donc, avec Dry Bones, Walt Longmire donne à ses fans son lot de rebondissements, toujours des personnages très trempés, et toujours... Donc cet environnement naturel.
Pour Gallmeister, ça va toujours bien.
Pour Gallmeister, ça va toujours bien, c'est-à-dire
si on... Parce que moi, je trouvais que ça avait un petit peu...
Alors, si on fait la parenthèse sur Gallmeister, moi, je trouve qu'ils sortent beaucoup trop de titres.
Ah voilà, c'est ça qui... l'écueil. Eh ben oui.
Voilà, c'est un
petit... Souvenez-vous comme on était heureux dès qu'il y avait une parution de Gallmeister.
C'est vrai.
Et on n'arrive plus à trouver notre bonheur.
Moi, je suis un peu perdu parce qu'en plus, la collection qui était noire, la collection de romans noirs, maintenant, elle est passée dans une forme qui ne la distingue plus. Avant, c'était une couverture noire, donc c'était du roman noir.
Bon, mais ça, c'est bien.
Comment ça, c'est bien? Ça, c'est bien. Oui, ça, c'est bien, Dry Bones, mais ce n'est pas le meilleur Greg Johnson. Maintenant, tous ceux qui ont lu Greg Johnson ont un petit peu le... Ils sont fans. Et ils basent toujours ses romans autour de super dialogues.
Il faut le prendre comme une œuvre.
C'est vraiment un esthète des dialogues. Maintenant, si vous voulez lire du très bon Greg Johnson, vous allez plutôt lire Little Bird ou Moulos ou Enfant de poussière. Mais c'est quand même du haut niveau dans le polar américain.
Merci, Christophe Laurent.
Je vous en prie, ça m'a fait plaisir.
Nous allons libérer Noël Cazale qui va retourner travailler sur Oedipe Roy que nous découvrirons les 15 et 16 novembre au Centre culturel L'Albor. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci Marie.
Et merci d'avoir bien présenté cette histoire d'Oedipe. Grâce à vous, on va mieux comprendre. Et puis, on attend avec impatience d'être au théâtre. On peut d'ores et déjà acheter ses places, vous le savez. Peut-être choisir ce spectacle dans son abonnement. C'est toujours intéressant d'avoir un abonnement financièrement.
J'ai une précision à donner. Ouais. La jauge est limitée, puisqu'on... Ça peut paraître curieux pour une tragédie grecque, mais on travaille sur un registre relativement intimiste. Donc la jauge est limitée à 150 personnes. Voilà. Donc il faut réserver ses places.
Donc il faut se hâter
c'est à l'Albo, on ne joue pas sur l'estrade, le gradin est plié, on libère tout l'espace. Donc il y a un dispositif spécial qui fait que on est quasiment pas tout autour, mais le public est en cercle. Pas mal la scène, et donc la jauge est limitée à 150 personnes. Je sais qu'il y a déjà des réservations. Donc,
il faut se dépêcher parce que ça fait 300 places.
Si on vient au dernier moment, le 15 au soir, on risque d'avoir des problèmes pour rentrer. Voilà. Bon, on pourra peut-être faire rentrer 5 à 10 personnes en plus, mais guère plus. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en fait deux. Parce qu'on était,
Merci beaucoup, Noël Cazale, de nous avoir donné toutes ces précisions. Marc-André à Castellani, nous n'avons plus rien, plus de temps. Une minute, deux minutes. Prenez votre guitare, s'il vous plaît.
Peut-être.
Dites-moi.
Plutôt, peut-être un constat. puisqu'on a beaucoup parlé, donc de cette tragédie grecque, je trouve peut-être plus intéressant de revenir sur ça, sur ce constat, de se dire que, eh bien, en une vingtaine d'années, on a essayé donc de faire une liste non exhaustive de cette tragédie dans la chanson corse. On retrouve donc Arigoukad, bon, on n'est pas dans la Grèce, mais qui a repris Dante. Tawagna, qui a beaucoup travaillé, on le sait, il y a Antigone, et Jean-Pierre Lanfranc qui a monté Caligula. Abeshta, qui est lié étroitement elle aussi à cette tragédie grecque. On a Avileta, qui a travaillé sur Médée, sur Ulysse, et Gampagnoli sur l'Odyssée. Là, en ce moment, on a au théâtre Orlando Furioso qui met en scène Léa Anton avec un chanteur sarde pour Orphée, Œdipe roi qui arrive. Voilà, il y a quand même...
Qu'est-ce que ça nous dit, en fait?
C'est Oedipien.
Que nous sommes au cœur de la Méditerranée.
Tout ça pour dire que c'est Oedipien. Oui, et puis il y a, je pense, un écho entre l'histoire, cette terre, ce qu'elle raconte, son actualité aussi, ses souffrances, ses doutes, et ces problèmes profonds d'humanité que soulève la tragédie et qui, au final, sont encore d'actualité aujourd'hui.
Voilà. Ouais, on n'est pas super joyeux. On n'a pas une phrase pour remonter le moral de Michel André.
C'est ce qu'on disait en off.
Qui veut hiberner.
Des opéras rock, on n'en a pas eu beaucoup. Hein, je veux dire, on parle plus volontiers de...
Qu'est-ce que vous allez faire ce soir, Michel?
Là, je rentre, je me fais une soupe liébig et je vais me coucher.
Allez, moi, si vous voulez, si vous l'acceptez, j'ai un remède. Vous le voulez?
Allez.
C'est d'abord de vous dire au revoir pour mieux vous retrouver dès samedi, 11h, avec mon acolyte Christophe Laurent, Françoise Ducré et Bénédicte Giusti. Des livres et des lires, écoutez cette émission. Ça, c'est un véritable médicament qui donne du bonheur. Et puis, on vous donne nos coups de cœur des livres que nous avons lus. Et puis surtout, il y a Candice Tatton pour se dire au revoir. Et ça, ça va vous mettre la pêche pour ce vendredi, c'est le vendredi soir. Ciao à tous et merci. Allez, beaucoup.
Et bon,
merci.
Benoît, vous êtes sur un chantier à Marmande, il ne se passe rien.
Non, rien du tout.
Ça veut dire que depuis l'incendie, les travaux n'ont toujours pas repris. L'entrepreneur va subir une baisse d'activité, son chiffre d'affaires va chuter.
Non, avec MMA, la garantie perte d'exploitation va lui permettre de recevoir une indemnité compensatrice. MMA, zéro tracas.
Et zéro blabla. Envoyez la pub.
Zéro tracas, zéro blabla, MMA.
Conditions en agence MMA.
La plus belle façon de conquérir l'espace, c'est avec les vérandas Rénoval. Rénoval, véranda et extension, l'espace s'invente sur Terre.
L'Agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie de la Corse vous accompagne dans vos projets d'urbanisme, d'aménagement et de la maîtrise de l'énergie sur notre territoire. Casa Budeta, Unciandrevre. Adoptez le dispositif Aurélie et bénéficiez de jusqu'à 15 000 euros d'aide pour la rénovation énergétique de votre maison. Information www.aue.corsica.
Udam pour agir plus d'EDF. A qualité uta di Gorsiga et l'ADEME. L'énergie a une autre bene. Tenimou la compte.
Votre météo du jour, eh bien, vous l'avez certainement constaté, c'est pas brillant, mais il y a du mieux. La vigilance jaune est levée sur la Corse. Néanmoins, le ciel est toujours chargé. Les averses éparses peuvent continuer tout au long de la soirée. Pour la nuit prochaine, quelques éclaircies pourraient apparaître.